La constitution de la RDC a 11 ans d'existence depuis le 18 février dernier. Dans un communiqué publié à cet effet, l'ONG Azazo estime que la constitution de la RDC est l'une des meilleures constitutions de l'Afrique, mais elle souffre de beaucoup de velléités politiques. 11 ans après, quel bilan dressé de l'application de la loi fondamentale congolaise? Pour en parler, je reçois professeur Ambroise Kamukuni, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa et député national de la majorité présidentielle. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Maître Jean-Claude Katende, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azazo. Professeur Alphonse Maindo, bonsoir. On me signale qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Je le disais dans le sommaire, depuis le 18 février 2017, la constitution de la RDC a bel et bien 11 ans. Dans un communiqué publié à cet effet, l'ONG de défense des droits humains, Azazo, estime que la constitution de la RDC est l'une des meilleures constitutions de l'Afrique, mais elle souffre de beaucoup de velléités politiques. On écoute Maître Jean-Claude Katende au téléphone de Paul Matendo.
Pendant ces 11 ans, cette constitution a souffert de beaucoup de manœuvres tendant à la réviser pour en fait la réduire de toutes les valeurs démocratiques qui lui ont été données à partir de l'accord global inclusif de Saint-Titi. Au point que, au jour d'aujourd'hui, nous avons une crise politique due au fait que la constitution a été violée, l'élection présidentielle n'était pas organisée dans les délais prévus par la constitution, et nous avons voulu partager toutes ces préoccupations avec le chef de l'État en lui demandant notamment de rappeler à la raison sa majorité présidentielle pour que les efforts soient faits dans le sens de respecter la constitution, et en même temps aussi de peser de tout son poids sur les négociations qui se passent à la CENCO, pour que la transition et les élections soient vraiment organisées pour une courte durée.
Voilà, Maître Jean-Claude Katende, c'est vous que l'on suivait là. Vous êtes président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azazo. En termes de bilan, pour vous, 11 ans après l'application de la Constitution, le bilan est positif, négatif ou mitigé?
Bon, il faut dire au jour d'aujourd'hui qu'au vu de tout ce qui se passe dans notre pays, la Constitution n'a pas été respectée de manière satisfaisante. Donc pour nous, nous pouvons dire que nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont la Constitution de la République démocratique du Congo a été appliquée par la classe politique au pouvoir aujourd'hui.
De manière satisfaisante, pas de manière satisfaisante, ça veut dire quoi? C'est mitigé, c'est négatif?
C'est négatif.
Alors,
c'est négatif pour nous.
Quels sont, Maître Jean-Claude Katende, les critères sur lesquels vous vous basez pour dresser ce bilan?
D'abord, il faut dire que la Constitution a été promulguée par le président de la République en 2006. Et là, la période s'ouvrait pour que cette constitution soit mise en œuvre de manière à ce que la démocratie qui est inspirée puisse se consolider. Et vous allez vous rappeler que de 2006 à 2011, nous avons constaté que sur certaines questions, dont notamment la question de la mise en œuvre de nouvelles provinces n'avaient pas été appliquées. Et en 2011, en janvier, nous avons constaté que la majorité présidentielle a initié la révision de la Constitution pour l'amputer du deuxième tour de l'élection présidentielle dans le but seulement de permettre au président Kabila d'être réélu de manière la plus facile, alors que ce deuxième tour avait été instauré pour renforcer les valeurs démocratiques, particulièrement l'accès au pouvoir pour que l'élection présidentielle soit une véritable compétition qui permet aux meilleurs de gagner. Et vous allez voir aussi que après 2013, 2014, 2015, il y a eu plusieurs tentatives des révisions de la Constitution de la République. Fort heureusement, certaines organisations politiques, principalement les partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile et certaines personnalités s'étaient mises debout pour s'opposer à ces initiatives de la majorité. Et enfin, les questions parmi les plus importantes, c'est l'élection du président de la République, qui n'a pas pu avoir lieu. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que les articles, les dispositions des articles 70, 73 et 220 de la Constitution n'ont pas été respectés, au point que, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la crise politique où nous nous trouvons aujourd'hui, tout simplement parce que la Constitution n'a pas été respectée. Et si vous regardez aussi, vous allez constater que dans un régime démocratique dont rêvaient les rédacteurs de cette constitution dans l'exposé des motifs, les droits de l'homme sont au centre du régime démocratique. Et vous allez constater que pendant toute la durée, n'est-ce pas, de deux mandats du président Joseph Kabila, le respect des droits humains n'était pas au rendez-vous. Tout simplement parce que les différentes institutions appelées à pouvoir, n'est-ce pas, faire respecter ces droits humains n'ont pas été à mesure de le faire. Et enfin, je vais m'arrêter par ceci pour vous dire que vous savez que le président de la République a reçu le pouvoir de notre Constitution d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous nous retrouvons dans la situation où le pays était en 2003, avec des institutions non légitimes, non élues par le peuple congolais. Au jour d'aujourd'hui, le président de la République est illégitime, le Sénat est illégitime, l'Assemblée nationale de la même façon, sans oublier les assemblées provinciales. Donc, nous nous retrouvons dans une situation où la Constitution n'a pas été respectée à tous égards.
Maître Katende, il y a Adonis Kamengwa, Oswald de Colosi qui dit « Toute œuvre humaine ne manque jamais d'imperfection. Cependant, la Constitution congolaise n'en est pas épargnée. Beaucoup d'articles souffrent de concision, précision, clarté et netteté. Et par conséquent, certains articles sont interprétés selon des intentions politiques personnelles. »
Bon, par rapport à son intervention, je peux dire tout simplement que je n'ai rien à dire s'il n'a pas identifié les dispositions précises sur base desquelles on peut faire des commentaires. Là, il a fait un commentaire général qui ne me permet pas de dire de quelles dispositions dont il parle. J'aurais bien voulu qu'il souligne à notre attention telle ou telle autre disposition. En ce moment-là, on peut faire des commentaires en connaissance de cause. Je suis d'accord que toute œuvre humaine est imparfaite, mais je crois qu'il y a eu quand même un effort assez sérieux dans la constitution actuelle de pouvoir démocratiser le régime, mettre en place toute une série de droits humains qui permettent à ce que le Congolais, non seulement qu'il puisse participer à la gestion du pays, mais aussi que les Congolais puissent profiter de diverses ressources naturelles que nous avons dans cadre de cette constitution. Donc, personnellement, j'aurais bien voulu qu'il nous indique les dispositions dont il parle pour que nous puissions faire des commentaires.
Merci maître. Professeur Ambroise Kamukuni, vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa et député national de la majorité présidentielle pour maître Katende. 11 ans après l'application de la constitution congolaise est négative. Quel est votre bilan, vous?
Merci Alain. Et je voudrais qu'il soit noté que ici, je n'interviens pas en tant que député national. Ça, il faut bien le dire. J'interviens dans ce studio en tant que professeur de droit constitutionnel.
Alors, ceci étant dit,
il faut effectivement noter que la constitution actuelle a gagné au niveau de l'élaboration. C'est-à-dire que quand on compare la constitution que nous avons par rapport à ce que nous avions avant, la constitution actuelle s'approche très sérieusement pour remplir les critères du constitutionnalisme. En fait, nous pensons
cette sur le plan purement scientifique.
Scientifique, oui. C'est par là que moi je vais commencer avant d'arriver dans la pratique. Il y a à noter que cette constitution s'est distinguée dans le cadre de la légitimité qu'il a acquise depuis sa promulgation. Et cela étant dit, il faut noter que toute constitution, en fait, dispose de droits. Parce que la constitution a aussi ses droits. Il y a le premier droit de la constitution, c'est d'être connu de ses destinataires. Et la constitution congolaise actuelle, on ne lui donnerait pas beaucoup de chances d'être connue. Parce que vous savez d'abord que la constitution est écrite en français. Et dans un français technique, très haut. Et comme nous savons, notre population est en majorité analphabète.
Elle n'a pas beaucoup été vulgarisée.
Et même, oui, on a tenté de vulgariser le projet déjà de la constitution, ce qui n'a pas été évident, parce qu'il fallait traduire la constitution dans les langues vernaculaires. D'abord, et vous savez que nous avons quatre langues qu'on dit nationales, mais vous pouvez vous retrouver dans ce pays, et dans des communautés où on ne comprend aucune des langues nationales.
Alors, le deuxième droit de la Constitution, professeur.
Le deuxième droit de la Constitution, c'est le droit d'être respecté par ses destinataires. Et dans les destinataires, contrairement à mon prédécesseur, il n'y a pas que ceux qui gèrent l'État. La Constitution, aujourd'hui, doit être respectée par tout le monde. Et pour respecter la Constitution, il faut la connaître, il faut la comprendre. Et ça, c'est déjà un handicap du départ. Et il a été bien rédigé. La constitution actuelle reprend pratiquement les trois générations de droits. Mais reste à savoir, est-ce qu'il a été appliqué correctement?
Alors, nous quittons, professeur, le plan scientifique et théorique pour aborder l'aspect politique. Est-ce qu'il a réellement été appliqué?
Et je ne voudrais pas dire l'aspect politique. Ça, c'est un égarement. Parce que pour respecter la constitution, il ne s'agit pas seulement de la politique. Le fait de respecter le droit et le respect du droit incombe à tout le monde, et aux dirigeants, les gouvernants et les gouvernés eux aussi.
Alors, a-t-elle été appliquée, oui ou non?
Elle a plus ou moins été appliquée.
À quel pourcentage selon vous?
Moi, je donnerais qu'il y a pratiquement 70% d'application.
Est-ce que ce n'est pas exagéré? Qu'est-ce qui vous le fait dire?
Je justifie. Et il faut d'abord reconnaître que la constitution actuelle a fini par être appropriée par le peuple. Quand on a promulgué cette constitution, dans son mode d'élaboration, la plupart des spécialistes ont critiqué la constitution actuelle comme étant une constitution de l'étranger. C'est déjà un danger. Mais au fur et à mesure que la constitution s'est incrustée dans la masse, on a compris que même les analphabètes ont fini par comprendre plus ou moins la constitution. Néanmoins, les articles les plus importants, si aujourd'hui, par exemple, il y a crise et il y a des réclamations de la population, c'est vous dire qu'il y a quand même des gens qui ont approprié la Constitution, c'est déjà un grand avantage. Pour moi, le fait déjà de maîtriser certains points, même si ça ne va pas dans le même sens, c'est déjà une avancée significative en matière d'exécution. Mais je sais aussi que à cause de l'écriture de la Constitution, beaucoup de gens ne comprennent pas intensement, y compris les dirigeants politiques et les leaders sociaux, qui ne comprennent pas suffisamment ce que dit quelle disposition de la Constitution.
En d'autres termes, ce n'est pas tout le monde qui devrait l'interpréter aussi.
Non, bien sûr. Ceux qui sont censés interpréter la Constitution sont repris dans la Constitution, notamment la Cour constitutionnelle, c'est elle qui doit interpréter la Constitution. Mais, chez nous au Congo, tout le monde veut interpréter la Constitution de sa façon. Et on choisit les dispositions de la Constitution à interpréter de façon sélective, selon justement selon l'obédience politique. C'est pour cette raison que, en répondant à votre invitation. J'ai voulu souligner que je réponds ici en tant que professeur de droit constitutionnel et non en tant que député national, parce que ça serait politique.
Voilà. Alors, professeur, l'année passée, il y a, à l'occasion des 10 ans de la Constitution, il y a l'Institut pour les développements, la gouvernance à paix en Afrique, IDGPA, dirigé par votre collègue, le professeur André Mbata, constitutionnaliste également, qui disait dans les constats, je cite, « L'un des problèmes majeurs relatifs au respect de la Constitution concerne le déficit de culture constitutionnelle dans le chef des gouvernants et des nombreux acteurs politiques. » Politique, alors que le peuple manifeste de plus en plus son attachement à la Constitution. Vous l'avez dit sur l'aspect appropriation, mais qu'en est-il sur la culture constitutionnelle, brièvement?
Oui, mais la culture constitutionnelle, elle est à cultiver. Vous savez, la culture de respect des textes. Nous sommes en Afrique, et ce que nous vivons aujourd'hui a été vécu par d'autres peuples avant nous. La culture, elle s'acquiert. Et chez nous, il y avait certainement des normes qui géraient la communauté, mais c'était des normes qui découlaient de la communauté elle-même. Mais vous voyez, c'est vrai, notre constitution est bien élaborée, mais la majorité des dispositions de notre constitution viennent d'ailleurs, c'est un mélange.
Et qui ne sont pas encore totalement adaptés.
Pas du tout.
Merci, professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Alphonse Mahindo, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Bonsoir, professeur. Vous nous suivez? Vous êtes en ligne?
Oui, bonsoir.
Merci, professeur. Vous avez suivi, vous venez de suivre votre collègue professeur Ambroise Kamukuni, qui pense que la constitution congolaise a été appliquée à 70%, tandis que maître Jean-Claude Katende, lui, pense que l'application a été négative. Professeur, quel est votre bilan, vous?
Bon, je pense qu'il est, il est quand même un peu difficile de faire un bilan exhaustif de la constitution comme ça, en parlant à l'air, sauf si on recourt à l'opinion, si vous voulez, au savoir, je vais dire, diffus dans la population. Mais peut-être avant que je réponde à la question, préciser d'abord qu'une constitution, c'est une âme de la cité, comme disait un ancien Isocrate, il disait ça, et c'est une représentation de soi, d'un peuple comme un sujet agissant. Et c'est à peu près ce qui a été repris par le général de Gaulle, qui définissait en 64 la Constitution comme étant un esprit, des institutions et une pratique. Alors, à partir de là, je peux maintenant, si vous voulez, faire le bilan de cette Constitution. Alors, si vous regardez, on dit c'est un esprit. Quel est l'esprit de la Constitution qu'on a en 2006? L'esprit, c'est que l'on voudrait qu'il n'y ait plus jamais de régime autoritaire, monolithique, avec une dictature qui impose et qui viole les droits. Et donc, on voudrait un multipartisme qui garantisse la liberté de tous. Ça, c'est l'esprit démocratique qui prévaut dans cette constitution. Alors, il y a des institutions qui sont mises en place. Ces institutions sont lesquelles répondent à cet esprit-là, c'est la séparation des pouvoirs pour garantir que les pouvoirs arrêtent les pouvoirs, comme disait Montesquieu, qui a théorisé l'expérience britannique. Alors, on a donc ainsi le président de la République qui est le chef de l'exécutif, avec un gouvernement, etc. Et nous avons le Sénat avec l'Assemblée nationale qui forme le Parlement, et nous avons les cours de tribunaux qui forment le pouvoir judiciaire. Donc on a là maintenant des institutions. Et puis on a des institutions d'appui à la démocratie qui sont instituées. On a deux institutions constitutionnelles, la CNI et le CSR. Donc la Commission électorale nationale indépendante, les conseils supérieurs de l'audiovisuel de la communication, qui doivent appuyer cette institution, donc qui doivent appuyer à la démocratisation. Voilà sur ce qui concerne les institutions qui sont mises en place. Et dans ce qui concerne les cours de tribunaux, il est prévu d'éclater la constitutionnelle en trois cours. La cour constitutionnelle, disons la cour suprême plutôt, en trois cours. Cour constitutionnelle, cour de cassation et conseil d'État. Alors qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui en termes de pratique? Pour faire vraiment le bilan, vous, ce qu'on regarde par rapport à la pratique, on constate que, pour commencer par le dernier point, la Cour suprême n'a pas éclaté comme c'était dit depuis 2006. Il y a juste une Cour qui a été créée, donc la Cour constitutionnelle. On peut bien se demander pourquoi celle-là et pas les autres. Hein. Et si on regarde les derniers arrêts qui ont été rendus par la Cour, on peut bien comprendre quelle était l'intention de mettre seulement cette Cour-là en place et pas les autres. Et ensuite, quand on regarde toujours au niveau de la pratique, on voit bien qu'il y a des élections qui ont été organisées en 2006, puis en 2011, présidentielles, législatives, sénatoriales et provinciales en 2006. En 2011, il n'y a que l'élection présidentielle et les élections législatives qui sont organisées. Mais on connaît aussi ce qui s'est passé avec ces élections de 2011. Donc on peut dire que là, c'est vraiment difficile à dire qu'il y a eu l'esprit démocratique qui s'est installé dans les pratiques, dans ce qu'on a. Il y a un élément important. On devait avoir un chef de l'opposition qui n'a jamais été institué, qui n'a jamais été mis en place. Pourquoi ? Eh bien, les politiques peuvent répondre à tout ce, à cette question-là.
Professeur.
Quand on regarde également oui.
Professeur, Maître Jean-Claude Katende disait tout à l'heure qu'actuellement, au moment où nous parlons, on est presque retombé dans la situation de 2003 du point de vue de la Constitution où on avait pratiquement toutes les institutions qui étaient illégitimes.
Alors, bon, je pense que sa considération peut être acceptable si l'on considère que la légitimité, c'est quoi ? La légitimité, c'est la confiance que les citoyens ont envers une institution, envers une personne. C'est ça la légitimité, c'est la croyance dans la validité des actes et des titres qui sont revendiqués par ceux qui détiennent le pouvoir à un moment donné. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et quand on voit toutes les manifestations qu'on observe par-ci, par-là, à Kinshasa et dans les grandes villes, dans le pays, et si on voit également tous les mouvements rebelles, les mouvements insurrectionnels qui se passe à travers les pays, on peut bien dire qu'on est là dans une situation où il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'acceptation de titres qui sont revendiqués et des actes qui sont posés par ceux qui sont au pouvoir. Alors, mais ceci dit, il y a un bémol par rapport à ça. Parce qu'on sait quand même qu'il y a une partie de la population qui continue à soutenir les institutions et leurs animateurs qui sont en place. Donc, ils continuent à porter un certain crédit, et qu'il y a un grand nombre qui est là. Alors, le défaut qu'on a par rapport à l'argumentation pour parler de véritable prise de légitimité, c'est le fait qu'on n'a pas des études pointues, notamment des sondages d'opinion sérieux, comme on a dans notre pays, on a des institutions de sondage qui les font de manière très professionnelle.
Merci.
Qui pourraient nous donner, à un moment précis, quel est le niveau de confiance que les gens ont dans leurs institutions.
Merci.
C'est ce qui nous manque, et donc du coup on est dans la polémique entre les uns et les autres sur la légitimité ou non de ceux qui sont au pouvoir.
Merci.
Ils sont encore légaux. Hein.
Merci, professeur. Maître Jean-Claude Katende, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Choc Mouidiroua à Lubumbashi. Le bilan est mitigé parce qu'il y a quand même certaines avancées, comme la liberté d'expression, bien qu'étouffée quelquefois. On peut aussi déplorer la mauvaise lecture de certains articles qui alimentent aujourd'hui la crise politique. Et je pense qu'il serait souhaitable dans les années à venir qu'on puisse réviser cette constitution, pas dans le sens de déverrouiller les articles clés, mais dans le but de réintégrer les dispositions écartées comme le scrutin à deux tours, car il est à l'origine du glissement généralisé qu'on vit.
Maître Katende, qu'est-ce que vous lui répondez à Chouk Mouigiroua? Il y a quand même des avancées, pourquoi vous ne les reconnaissez pas?
Je voudrais revenir sur deux petites choses qui ont été dites par les autres intervenants. En ce qui concerne l'appropriation de la Constitution, je pense que les institutions publiques n'ont pas joué leur rôle pour permettre aux citoyens de s'approprier cette Constitution. Ça a été principalement le travail fait par les partis politiques de l'opposition, certaines personnalités comme le professeur André Mbata qui a parcouru presque tous les Congos pour pouvoir enseigner cette constitution à la masse. Et aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter du fait que c'est par cette appropriation que nous pouvons encore parler de la constitution dans sa forme actuelle. En ce qui concerne la légitimité, je pense que le professeur qui intervenait tout à l'heure a oublié un aspect important. Au-delà du fait qu'il faut faire des sondages d'opinion, je pense que les élections, les votes sont en fait la voie appropriée qui donne la possibilité au peuple de renouveler leur confiance aux animateurs des institutions ou pas. Et au jour d'aujourd'hui, même si ces sondages n'ont pas été faits, il n'y a pas eu élection
toutes les institutions ont épuisé leur mandat que le peuple leur avait confié, et nous pouvons dire aujourd'hui qu'ils sont toutes illégitimes et elles ne peuvent pas parler au nom du peuple congolais parce qu'elles n'ont pas de mandat du peuple congolais. Maintenant, en ce qui concerne la question qui m'a été posée, je relève le fait que, en ce qui concerne la liberté d'expression, il y a deux choses qu'il faut souligner. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui s'expriment, mais en s'auto-censurant eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui se refusent de parler au risque d'avoir de place, au risque d'être arrêtés. Alors que d'autres, les plus courageux, interviennent sur toutes les questions, mais avec cette conséquence, qu'ils s'exposent à des poursuites judiciaires, qui s'exposent à des menaces, qui s'exposent à des arrestations arbitraires. Et donc, nous pouvons dire au jour d'aujourd'hui qu'il n'y a personne qui s'exprime ici en République démocratique du Congo de manière tout à fait calme, tout à fait tranquille, en se disant « si j'aborde telle question, je ne serai pas poursuivi, je ne serai pas menacé, je ne serai pas arrêté arbitrairement ». Donc il faut conclure au jour d'aujourd'hui que par rapport à ces questions-là, pour moi j'estime qu'il n'y a aucune avancée par rapport à ça. Combien de gens ont été arrêtés arbitrairement dans ce pays? Combien de gens ont été tués tout simplement pour avoir donné seulement une opinion sur telle ou telle autre question? Donc pour les autres aspects qu'il a abordés, des dispositions qui ont été mal interprétées, je pense que la Cour constitutionnelle n'a pas joué effectivement le rôle lui dévolu par la Constitution en sorte qu'elle soit une Cour impartiale qui n'interprète pas les dispositions de la Constitution qui sont soumises à sa compétence en faveur de telle classe politique, de tel groupe de personnes contre tel autre. Et je pense que c'est à ce niveau-là que la Cour devait se montrer impartiale pour que la population lui fasse confiance. Nous ne devons pas oublier que la justice au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas rendue au nom du président de la République ou au nom du roi, mais c'est au nom du peuple congolais.
Maître Katine.
La question que nous devons nous poser, celle de savoir, est-ce que le peuple congolais aujourd'hui est satisfait de la manière dont la justice est rendue par nos cours et tribunaux, et particulièrement la Cour constitutionnelle? Ma réponse à ce sujet-là est non.
Maître Katende, il y a Louis-Michel Bankina de Kananga qui dit « Dire que la constitution du 18 février 2006 est la meilleure, c'est un faux jugement. Au vu de l'incapacité de cette dernière à se faire appliquer, il y a plutôt lieu de conclure au manque d'identité de celle-ci, car son droit au respect n'étant pas au rendez-vous, et cela dénote le manque d'originalité de la dite constitution. La faute incombe donc au constituant qui n'a pas pris en compte les aspirations du peuple congolais, mais qui s'est plutôt contenté de l'importer comme pour la plupart des textes juridiques régissant notre pays. »
Non, je pense que cette manière de voir n'est pas conforme à la vérité. On a beaucoup d'intervenants, moi-même et les autres, nous avons souligné du fait de l'appropriation de cette constitution par la population. C'est que la population, quand elle est sensibilisée, quand elle est enseignée, elle finit par comprendre l'importance de la constitution. Il n'y a aucun parti politique aujourd'hui qui peut se prévaloir d'avoir mobilisé le peuple pour
Merci.
Que ces derniers puissent se battre pour la constitution.
Merci.
Le peuple a compris que c'était important de se battre pour cette constitution. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a un des intervenants qui a parlé de l'esprit de la Constitution. Et je pense que dans notre classe
Merci.
Politique, l'esprit de cette Constitution qui a voulu instaurer un régime totalement démocratique n'est pas encore dans la tête
Merci,
de ceux
maître.
Qui sont au pouvoir, encore moins de ceux de la classe politique,
Merci,
en sorte que par cet esprit.
Merci, maître Katende. Merci, maître. Je
vous
redonne la parole tout à l'heure. Professeur Kamkouni, il y a pour vous cette autre réaction qui nous vient de Kinshasa.
David Loyoko, à partir de Kinshasa, Massina, le bilan est largement négatif car c'est une constitution qui souffre de beaucoup d'irrégularités d'application, notamment la liberté de la presse, l'indépendance du pouvoir judiciaire, manifestations publiques et surtout la violation intentionnelle des articles verrouillée par le pouvoir en place.
Veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité de cet élément. Professeur, j'ajoute cette réaction de Simon Chishimbi de Kananga qui dit « À mon humble avis, la RDC est un État qui n'a pas besoin d'une constitution par le simple fait que depuis son indépendance jusqu'à nos jours, c'est un pays qui se dote des meilleures constitutions, mais du point de vue application zéro, cette dernière est violée par les dirigeants eux-mêmes, mais qui en fait un problème, alors à quoi sert-elle ? Donc nous disons que la RDC a une constitution purement théorique. » Professeur.
Oui, c'est que les autres disent, et bien entendu, mais le problème qui se pose, c'est que, vous sentez dans nos discussions, on politise même la façon d'expliquer comment la Constitution est appliquée. C'est vrai, il y a eu beaucoup de manquements. Dans mon départ, j'ai commencé à dire, pour mieux appliquer une Constitution, il faut mieux la comprendre. Tant qu'on n'a pas compris à quoi rime telle ou telle autre disposition, on resterait dans la confusion. Il y a effectivement beaucoup de manquements qui ont eu lieu, je le disais dès le début, parfois à cause de l'incompréhension quant à certaines dispositions. On peut bien dire que la Constitution a été bien rédigée et que, comme je l'ai dit au début, Maître Katende vient de le dire aussi, qu'il y a eu une certaine appropriation. Il y a une certaine appropriation, mais l'appropriation seule ne suffit pas.
Mais facilitée plus par les ONG, les partis de l'opposition que les institutions.
Oui, mais les partis, il ne s'agit pas seulement des partis de l'opposition, il s'agit de tous les partis politiques. Leur rôle, effectivement, c'est d'éduquer la masse. Mais j'ai bien l'impression que tout le monde parle du peuple, le peuple, le peuple. Mais le peuple, il faut le consulter. Chacun, les partis de l'opposition disent, le peuple a dit ceci. Les partis de la majorité disent, le peuple a dit ceci. Finalement, ce peuple, il aura parlé à qui? Qui est-ce qui a dîné avec le peuple? Qui est-ce qui a écouté le peuple, ce qu'il pense réellement?
Alors, au-delà du peuple, professeur Maître Katende a dénoncé plusieurs tentatives du point de vue de la majorité pour réviser cette constitution, mais qui malheureusement n'ont pas échoué, selon lui.
Ils ont échoué, il l'a dit. Mais bien sûr, mais vous devez savoir, Alain, que la révision de la constitution est prévu dans la Constitution. C'est la Constitution elle-même qui prévoit qu'à un moment donné, on peut réviser certaines de ces dispositions. C'est aussi un avantage, une véritable avancée. La Constitution a 11 ans, mais n'a été révisée qu'une fois. C'est quelque chose. Parce que si nous voulons donner le bilan d'une Constitution, il ne faut pas voir seulement le moment présent. Il faut aussi voir le temps parcouru. Depuis 1960, on est passé par 64, on est passé par 1967. La Constitution de 67, dite de la Deuxième République, a été révisée pratiquement 19 fois. Et il y a eu même de très grandes révisions qui s'apparentent vraiment à une nouvelle Constitution, comme la fameuse loi constitutionnelle du 15 août 1974, qui a basculé la République dans la monarchie. Et lorsqu'on arrive à juger la constitution actuelle, il ne faut pas être aussi sévère que ça.
C'est comme celle de 2006 où la majorité voulait déverrouiller l'article 220 notamment.
En matière d'analyse des institutions ou de gestion du pouvoir politique, ceux qui sont au pouvoir sont toujours tentés de faciliter le fonctionnement des institutions à leur faveur. Et ça, c'est dans
une
tous
tentation
les pays.
Légitime.
Oui, c'est dans tous les pays du monde. Par exemple, lorsqu'on cite la révision intervenue en janvier 2011, on reproche...
Ou on est passé de deux tours à un tour.
Ok, mais est-ce que c'est une violation de la Constitution? Parce qu'il ne faut pas qu'on voit des violations partout. Et est-ce que le fait d'avoir un tour ou deux tours se trouve parmi les dispositions verrouillées? Je ne crois pas. Ceux qui sont au pouvoir trouvent toujours des astuces, pourvu qu'elles soient normales et qu'elles soient constitutionnelles, qui puissent les aider à conserver le pouvoir le plus longtemps possible.
Alors, professeur, qu'est-ce que vous répondez à certains cadres de la majorité présidentielle qui traitent cette constitution des constitutions des belligérants, qui pensent qu'aujourd'hui, ça ne représente plus rien, c'est un papier qu'il faut très vite remplacer par une nouvelle constitution?
C'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Pour avoir une constitution vraiment légitime dans ce pays, il faut se référer aux aspirations de ce fameux peuple que tout le monde réclame. Il faut savoir qu'est-ce qui peut être offert du point de vue de la véritable science. Qu'est-ce qui peut être constitutionnel? Qu'est-ce qui ne peut pas l'être? Dans ce pays, nous avons connu des constitutions qui avaient dans leur disposition même la fixation des indemnités parlementaires. De telle sorte que, finalement, vu l'abondance des dispositions, vous voyez, dans d'autres pays, les dispositions constitutionnelles sont moindres. Quand on prend la Constitution américaine tourne autour d'une seule idée, la liberté. C'est pour cette raison que si en Amérique, un président viole la Constitution, les premières personnes qui se mettent debout, ce sont ses propres partisans. Mais pour faire quoi? Pour exiger son départ. Tandis que contrairement chez nous et partout en Afrique, si le chef de l'État viole la Constitution, c'est également ses partisans qui se mettent debout.
Pour l'acclamer.
Qui se mettent debout, mais pour une raison contraire. C'est-à-dire lui demander de demeurer là et d'être soutenu. Pourquoi? Parce que justement, la Constitution, les dispositions appropriées, apprivoisées, ne signifient pas l'aspiration contenue dans le fort intérieur de la population.
Merci, professeur. Professeur Alphonse Mahindo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au Sud Kivu.
Ibela Mugisho Kabunga de Bukavu au Sud Kivu. Lazadon a fait une lecture propre et correcte. Nous n'avons aucun problème de texte au pays. Le seul problème que nous avons est le manque d'hommes capables d'exécuter nos bons textes. À mon avis, il faut que nous ayons une population capable d'exiger l'application des textes. Le contraire, la classe politique violera toujours notre constitution, qui est d'ailleurs déjà violée à plus de 60%.
Professeur, votre collègue professeur Ambroise Kamukuni faisait allusion à la population américaine qui fait respecter sa constitution. Visiblement, la population congolaise, elle s'est quand même appropriée cette constitution, mais ne parvient pas encore à la faire respecter.
Bon, je pense qu'on peut pas nier que le peuple congolais a réussi à faire respecter sa constitution, puisqu'on a vu qu'il y a eu des tentatives de la réviser qui ont toutes échoué. Grâce à qui? Grâce à la population. Il y a eu des morts pour ça. Et donc on peut pas l'ignorer. Donc on doit reconnaître ça. Et que ce qui s'est passé en 2015 et un peu en 2016 nous rappelle bien que les meilleurs garants de la constitution, c'est le peuple congolais lui-même. Ce sont les citoyens congolais qui sont morts, nombreux, pour défendre cette constitution, pour qu'on ne la révise pas, notamment en ce qui concerne les mandats présidentiels et le nombre de mandats du président. Alors moi, je voudrais aussi, pour répondre à cette question qui vient d'être posée, là, cette remarque, avant de répondre à ça, je voudrais quand même apporter ma contribution par rapport à deux questions qui ont été soulevées tout à l'heure. D'abord, en ce qui concerne l'appropriation de la Constitution. Alors, il me semble qu'on exagère un peu en parlant de l'appropriation populaire de la Constitution, puisqu'il ne s'agit pas seulement de voir certaines dispositions de la Constitution qui mobilisent tant notre population. Il y a de nombreuses constitutions, dispositions qui sont là, qui ne sont pas connues du grand public. Par exemple, en ce qui concerne les compétences des provinces, combien de gens aujourd'hui se mobilisent-ils pour que l'on puisse assurer aux provinces leurs compétences réelles, notamment en ce qui concerne l'éducation primaire, maternelle, secondaire et professionnelle, en ce qui concerne la gratuité de cette éducation primaire? Vous voyez, il y a des questions qu'on peut soulever. Les droits civils et politiques, qui se bat pour ça? Remarquez que un citoyen congolais ne peut pas exercer le pouvoir partout au pays ou comme il veut. Si vous êtes originaire de l'Équateur, vous ne pouvez pas exercer le pouvoir dans la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, on va vous renvoyer chez vous, même pour vous présenter aux élections. Il y a quand même, les partis politiques font ce jeu là aussi. C'est une violation flagrante de la Constitution. Et donc on ne peut pas dire qu'il y a une vraie appropriation en ce terme-là. C'est vrai que pour ce qui concerne certaines dispositions, il y a une véritable appropriation, mais pour d'autres, non. La Caisse de péréquation nationale pour la solidarité, où en est-on? Voyez-vous, il y a autant de questions dont on ne parle pas de la Constitution et que peu de gens connaissent. Donc l'appropriation, c'est quand même limité. Pareil pour ce qui concerne, j'accepte, j'ai bien aimé le complément d'information donné tout à l'heure par Maître Katinde sur les élections. Évidemment, l'élection, les référendums sont des éléments de légitimité qui déterminent la légitimité des institutions. Mais ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est, puisqu'on attend encore d'élections, pour pouvoir juger de la légitimité des gens qui sont en place, il y a des mécanismes simples qui servent à ça. Voilà, et sur le sondage. Alors, pour revenir à la question de notre auditeur de Bukavu, je dirais que évidemment on a moi je dirais pas qu'on n'a pas de problème de texte. Le texte que nous avons aujourd'hui dans cette constitution mérite quand même un petit coup de balai. Voyez-vous, et pas ce qu'on attend. Et moi je voudrais pas, parmi les points que moi j'aimerais qu'on puisse revoir, c'est les points qui concernent notamment la répartition des compétences entre les provinces et le gouvernement central. Et l'allocation des ressources nécessaires pour le fonctionnement de ces provinces-là. Et l'autre point sur lequel moi j'aimerais vraiment qu'on puisse revenir, c'est la subdivision des provinces, les limites des provinces. Tel qu'on fait aujourd'hui, on est revenu à ce qu'on avait fait à l'époque coloniale. D'un coup de crayon, on trace des frontières entre les gens sans tenir compte de l'homogénéité, de la possibilité d'intégration économique et sociale et culturelle qui permettrait un véritable développement, un véritable démarrage. Donc il y a quand même un certain nombre de questions de la Constitution qui méritent bien un petit coup de balai. Alors, le problème d'homme, ça c'est un vrai problème. Au Congo, on a ce souci-là, on manque d'hommes. Et ça, je suis totalement d'accord avec notre auditeur. Il nous faut des hommes nouveaux.
Professeur.
Il nous faut des hommes qui soient vraiment épris de bien de notre pays.
Professeur, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. En guise de conclusion, professeur, comment vous entrevoyez l'avenir de cette constitution?
Alors, moi, je pense que l'avenir de cette constitution dépend essentiellement de la manière dont le peuple congolais, dont les citoyens congolais vont donc se mobiliser pour la défendre. Si les gens ne se mobilisent pas pour la défendre, eh bien, cette constitution va être oubliée et va continuer à être foulée au pied comme elle l'est. Hein, pour largement, elle est foulée au pied aujourd'hui en ce qui concerne les droits fondamentaux, on l'a dit tout à l'heure, en ce qui concerne les institutions, l'exercice du pouvoir politique, en ce qui concerne l'équilibre des pouvoirs, qui est en défaveur des autres institutions, on a un hyper-président, un président hyper-puissant, mais irresponsable devant le Parlement,
etc.
Donc on a, il y a, si vous voulez, l'avenir de cette constitution revient entre les mains de la population congolaise.
Merci,
il faut que
professeur.
Ça profite et qu'elle défende cette constitution, pour que ça puisse aller de l'avant. Sinon,
merci, professeur.
On va la modifier très incessamment.
Merci, professeur. Maître Jean-Claude Katende, cette constitution a besoin d'un coup de balai. Le professeur Maindo a donné les points sur lesquels il pense qu'elle peut être révisée. Quelle est votre analyse?
Oui, je pense qu'il y a certains points qui sont discutables. En ce qui concerne, par exemple, les allocations des moyens financiers aux provinces, je crois que la question la plus importante que nous avons aujourd'hui, c'est que les dispositions qui sont prévues à ce sujet ne sont pas respectées par le gouvernement central. Ce qui est alloué aux provinces, ce n'est pas ce qui est prévu dans la Constitution. Je crois que nous devons d'abord commencer par respecter ce qui est prévu aujourd'hui pour voir comment améliorer. Sur la question de la répartition des compétences, je partage les mêmes points de vue que lui et je pense qu'il est important que cette question soit revue. Mais il reste la question de l'opportunité. Il ne faudra pas qu'on ouvre une boîte à Pandore aujourd'hui pour modifier certaines dispositions et permettre à ceux qui veulent chambouler toute la Constitution de pouvoir la changer. Je crois que ça risque d'être un grand danger.
Merci, maître. Professeur, en guise de conclusion, je reviens sur une résolution du colloque de l'année passée organisée par professeur Mbata Idi. Toute tentative de contournement de la Constitution par des dialogues ou des transitions constituerait une fraude à la Constitution et le non-respect de la Constitution aurait des conséquences néfastes pour la paix et la reconstruction de la RDC. En guise de conclusion, professeur, comment vous comprenez cette affirmation?
Je le comprends. Je comprends l'affirmation qui est faite bien avant, mais pour pouvoir clore ce débat, moi je voudrais rejoindre mes deux collègues qui sont intervenus avant, mais aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la constitution actuelle mérite un balai, mais un véritable balai, pour qu'on arrive à restreindre les dispositions qui correspondent aux aspirations réelles de la population.
C'est-à-dire une nouvelle constitution.
Une nouvelle. Peut-être pas immédiatement.
Merci.
Mais plus loin, il faudra qu'on y pense.
Merci.
Parce qu'on continuera à se battre là-dessus.
Merci. Cette émission est terminée. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.